Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Il fait partie des auteurs français les plus lus dans notre pays. Il publie Lucia, son 10e roman. Bernard Minier se met à table jusqu'à 12h30. Notre deuxième invité brûle les planches dans un classique de Feydeau. Catherine Jacob va nous rejoindre. Et puis Emmanuel Rubin, notre gastronome en chef, va faire un clin d'œil à la fibre espagnole de Bernard Minier. Eh oui, surprise. Et au fourneau, la cuisine voyageuse. Vous l'entendez, tiens, elle est en train de prendre forme, la cuisine voyageuse et souriante du chef Nordine Labia, le chef d'À mi-chemin à Paris, dans le 14e arrondissement. Une recette que vous pourrez refaire à la maison. Bonjour Bernard Minier.
Bonjour.
Merci d'être là.
Avec plaisir.
Alors, pour changer des personnages interrogés dans vos romans, à votre tour de vous mettre à table, comme on dit dans un commissariat.
Oui, vu ce que j'ai devant les yeux, ça promet.
Hein ? Alors, qu'est-ce que vous avez devant les yeux ? Tiens, racontez-nous.
Ah ben, déjà, j'ai de magnifiques poissons qui ont l'air tout à fait frais vu leur œil vif. J'ai des petits légumes, des petites pommes de terre, des petites carottes là-bas. J'ai un beau Saint-Amour et j'ai une aïoli qui se prépare tout au fond.
Oui,
voilà.
On a de quoi faire et on a des bars sauvages qu'on va vous présenter avec Nordine dans un instant. Question rituelle, tiens, que je pose à mes invités à cette heure-ci. Mm-hmm. Bernard Minier, qu'est-ce que vous faites sur les coups de 11h le dimanche ?
Alors, sur les coups de 11h, je ne suis pas encore en train de manger hein, parce que je mange un peu à l'heure espagnole. Donc, c'est plutôt vers 1h, 2h de l'après-midi. Souvent je fais du sport en fait, et comme j'ai la chance d'être pas très loin de la forêt de Rambouillet, je peux être aussi en balade dans la forêt.
Et le sport, c'est un bon moyen par exemple de cogiter à vos personnages, à vos intrigues pour vos thrillers?
Ouais, Nietzsche disait que les meilleures idées viennent en marchant et j'allais dire en mangeant, comme quoi le lapsus vu oui. L'endroit où on se trouve et en fait oui, je pense que c'est, en fait ça vient toujours quand on s'y attend le moins. On est toujours en train de réfléchir, mais la bonne idée, l'inspiration, elle vient quand on est sous la douche, quand on marche, quand on fait du sport. C'est-à-dire quand on commence à débrancher un peu.
On va parler cuisine parce que vous le voyez ici, elle se prépare sous nos yeux, on l'entend. Un beau plat qu'on va faire pour vous, un plat préparé par Nordine Labia, le chef du restaurant À mi-chemin, dans le 14e arrondissement de Paris. Bonjour Nordine.
Bonjour Laurent. Bonjour.
Merci Bonjour. D'être là, cher Nordine.
Je suis ravi, j'habite juste à côté.
C'est vrai, vous êtes venu en voisin. Hein, vous êtes à mi-chemin de votre domicile et de votre restaurant. Tiens, à mi-chemin, qu'est-ce que ça veut dire? À mi-chemin de quoi, justement, racontez-nous.
C'est à mi-chemin entre la Tunisie et la Bretagne.
Eh oui, parce que vous êtes d'origine tunisienne.
Voilà, mon épouse est bretonne, moi je suis tunisien. Et on est à Paris, on essaie de transmettre, c'est ce que mieux, c'est des régions.
Exactement, et à mi-chemin, c'est le nom de votre restaurant dans le 14e arrondissement de Paris. Alors qu'est-ce qu'on mange pour faire ripaille avec Bernard Minier ce dimanche midi?
Voilà, je proposer une spécialité à moi qui me rassemble, je pense. Un œuf maillot boutargue. La boutargue, elle est presque née en Tunisie.
C'est vrai.
Tout le monde sèche ses œufs de mulet à la fenêtre, à la goulette. Et en passant par la Corse, il y a des boutargues corse, il y a des citrons corse.
Oui,
et
parce
là,
que vous passez beaucoup de temps en Corse aussi, Nordine. Hein.
J'aime bien être à mi-chemin, là je me sens très à mi-chemin. Et à Paris, l'œuf maillot, c'est vraiment l'entrée de tout le monde.
Et il revient en force, hein, on voilà. En a parlé déjà ici, c'est vrai qu'on aime retrouver l'œuf maillot. Et là, vous allez lui donner un petit côté terre-mère avec cette boutargue, ces œufs de mulet séchés par-dessus. Voilà pour l'entrée et pour le plat alors.
Un bar sauvage de Lorient.
Il est
qui vient
bon,
de Port-Louis.
D'une fraîcheur absolue, l'œil vif, les écailles luisantes, le corps bien rigide et ferme. C'est comme ça qu'on voit un beau poisson frais. Et puis les ouïes rouges, oh là là, rouges vives. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ce beau
on
bar?
On va faire un tagine.
Ah oui.
Tagine, fenouil.
Oui. Bernard Minier, ça vous parle le tagine?
Ah bah oui, ça me parle. C'est un de mes plats préférés, le tagine. Alors le tagine de poisson, je suis un petit peu moins habitué, mais oui, je suis bien sûr.
Tagine de quoi en Alors, général?
Tagine aux pruneaux, aux amandes, à plein de choses. Moi, je suis un fan de tagine, mais j'aime beaucoup la gastronomie marocaine et tunisienne et algérienne. J'aime aussi les pastillas et j'aime les...
J'en fais au
Canada. Voilà, ce sont des choses merveilleuses.
Chez À mi-chemin, c'est vraiment un endroit où vous pouvez découvrir du tagine sous toutes ses formes. Il propose même ses tagines dans un livre, Nordine, dans Paris-Tunis, aux éditions Tana. Et c'est vrai que le tagine de poisson, c'est un plat rassembleur pour le dimanche midi aussi. Hein.
Oui. Bah, y a des légumes, les enfants ils vont finir par manger les légumes.
C'est ça, bah oui, ça y est, quand même, il faut. Ouais.
Et en plus, né en une période, c'était le poisson qui était moins cher que la viande. Donc il n'y a pas assez de glace, les chaînes de froid n'étaient pas assez développées comme aujourd'hui. Donc les petits pêcheurs, ils ont une barque, ils vont de la pêche juste au bord de la route. Et à Anzer, il n'a pas vendu son poisson à l'Ebrade. Donc, les poissons, elles étaient moins chères que la viande.
Eh oui, et voilà. Les... D'où la popularité du tagine de poisson.
Oui, le couscous au poisson aussi.
En Tunisie, le couscous de poisson. Oui. Eh bien, on vous laisse cuisiner, Nordine. C'est parti. Et on vous retrouve dans un instant. Alors, Bernard Minier, vous venez nous voir avec votre dernier roman, Lucia.
Oui.
Au revoir, Martin Servaz, hein, votre héros récurrent.
Au revoir, pas adieu. Au revoir,
hein, pas pour l'instant. Et bonjour, Lucia, une nouvelle héroïne, on va dire. Coria, c'est un petit peu insolente, hein, si on doit la décrire.
Oui, moi je dirais que Lucia, c'est quelqu'un qui ne triche pas, en fait. C'est quelqu'un qui n'arrondit pas les angles, en effet, qui est vrai. Et je pense que c'est aussi pour ça que peut-être les lectrices et les lecteurs vont l'aimer. C'est parce que, voilà, elle est au fond ce qu'on voudrait tous être, mais qu'on ne peut pas toujours être dans la vraie vie, quoi. Comme on dit aujourd'hui, elle a un côté badass. Et oui, et en général, on est obligé un peu de filtrer dans la vie réelle. On ne peut pas toujours dire ce qu'on pense. Elle a tendance à le faire. Et elle est beaucoup dans le conflit aussi avec sa sœur, avec sa mère, avec sa hiérarchie, avec son ex-mari. Mais voilà, je pense que c'est ça qui la rend attachante, c'est ce côté vrai.
Et puis son nom, Lucia Guerrero. Donc,
Tout est dit. Guerrière. C'est la guerrière, bien sûr. Et en plus, Lucia, c'est aussi Luz, c'est la lumière. Donc, il y a ce côté lumineux, il y a ce côté...
L'ombre batailleur. Et la lumière, ben, oui, et on a l'occasion de le voir au fil de ces pages dans votre dernier roman qui vient de sortir et qui, comme tous vos romans, cartonne et rencontre le public. Vous en aviez assez un petit peu de faire des enquêtes à Martin et vous aviez envie d'une présence féminine à vos côtés, peut-être ?
Non, non, je ne me lasse pas de Martin et je crois que les lectrices et lecteurs ne s'en lassent pas non plus parce que chaque fois que je les rencontre, ils me demandent si on va voir Servaz dans le prochain. Mais en même temps, j'avais depuis un certain temps, ce personnage dans un coin de ma tête, Lucia, un personnage féminin, fort. Et quand j'ai voulu vraiment le mettre en scène, j'ai pensé au fait que les Pyrénées ont deux versants, le versant français et le versant espagnol, que ma mère est née en Espagne, dans le nord de l'Espagne, dans le Haut-Aragon. D'ailleurs, une région qui est les contreforts pyrénéens, une région qui est décrite aussi dans le roman. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas une policière espagnole. Et là aussi, j'ai pensé à quelques personnes que je connais bien, qui ne sont pas très loin de moi, qui sont comme ça, petites, brunes, cogneuses, tatouées aussi.
Oui, tatouées.
Mais il se trouve que dans la vraie vie, je connais des personnages tatoués aussi.
Ah, bah, il y a beaucoup de gens tatoués aujourd'hui.
Évidemment, et j'en ai pas très loin de moi, donc j'ai pas eu à chercher bien loin pour m'inspirer.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous voilà en cuisine autour de Bernard Minier et puis le chef Nordine Labia s'active au fourneau. C'est le chef d'Amichemin, restaurant du 14e arrondissement de Paris. On va le dire à nos auditeurs, hein, comme vous le faites dans vos romans, en toute transparence, Bernard Minier. Nous sommes en cuisine avec un beau plan de travail. Et
magnifique.
Il y a du monde dessus. Hein.
Ah oui, c'est splendide. Il y a tellement d'ingrédients. On dirait un tableau, en fait. Un tableau de maître, une nature morte, c'est merveilleux.
Oui, c'est vrai. Et puis les tableaux, ça vous connaît en ce moment parce qu'il y en a quelques-uns là dans votre,
roman. Oui, la transition était tôt de trouver. Effectivement, dans Lucia, on a un tueur qui s'inspire de tableaux de la Renaissance et du Baroque pour mettre en scène ses victimes et en particulier de peintures elles-mêmes inspirées des métamorphoses d'Ovide qui sont une des très célèbres œuvres de l'Antiquité, mais qui sont aussi quand même extrêmement violentes.
Et oui, alors Lucia, c'est le nom de votre 10e roman chez Ixo Éditions. Alors on va raconter le début, hein, ça se passe en Espagne. Un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur qui met en scène ses victimes en s'inspirant, vous venez de le dire, de tableaux de la Renaissance. On ne peut pas tout raconter, mais comme toujours dans vos romans, Bernard Minier, ça commence par une scène forte, ça cogne dès le départ. Le coéquipier de Lucia, on le retrouve, sur une croix, mort et collé.
C'est ça le mystère au départ, c'est que quand Lucia le découvre, il a l'air d'être suspendu dans les airs, de flotter dans les airs. Et donc,
il pleut, on voit tout de suite la scène.
C'est une scène dantesque, c'est apocalyptique dès les premières pages, parce que j'aime bien plonger mon lecteur la tête la première dans mes histoires horrifiques, dans mes suspenses, et ne plus les lâcher, les garder en apnée pendant tout le roman.
Je lisais cette scène peu de temps après avoir vu à la télévision, je ne sais pas si vous avez vu ça, L'île aux 30 cercueils adapté de Maurice Leblanc.
Enfin, moi, je connais l'ancienne version avec Claude Jette, je n'ai pas encore vu la nouvelle.
Alors, la nouvelle est vachement bien avec Virginie Ledoyen et Charles Berling. Et il y a justement une scène où, sur une croix, on retrouve aussi une des personnes de l'île, ça se passe à Ouessant, qui est crucifiée. Donc voilà, c'est vrai qu'après Pâques, on est en plein dedans.
Charles Berling, qui du reste a interprété Servaz dans l'adaptation de
Exactement.
Glacé sur M6.
Absolument, parce que Glacé, un de vos premiers thrillers, a été adapté. C'est ça qui est dingue avec vous. beaucoup, c'est qu'à chaque fois, on voit les scènes. C'est du cinéma sur papier, en fait, ce que vous nous faites. Hein.
Ah, c'est assez cinématographique. Ouais. Moi, j'aime bien les atmosphères, les décors, les choses comme ça. Je suis un peu comme un réalisateur en train de tourner un film, et sauf que moi, j'ai un budget illimité. C'est quand même un avantage.
Oui, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de direction de production qui vont vous mettre des freins pour les décors et ce genre de choses.
Exactement, je fais ce que je veux quand je veux.
Ah, le voilà, l'œuf maillot de Nordine. Oh, elle est belle, votre poutargue. Vous l'avez mise comment par-dessus?
C'est magnifique.
C'est une poutargue d'hiver qui vient du temps des palos. En côte orientale, Corse, et temps des palos. J'ai une amitié avec les pêcheurs, ces petites associations. Et on a la récolte. C'est un beau tag, pas amer du tout, pas iodé. Elle est séchée au bord des laitons.
Oui, puis vous l'avez râpée très finement.
Très finement, hein, comme ça ne colle pas au palais.
Ah oui, ça fond.
Oui, c'est génial.
Ah, c'est bon, c'est plus.
Je vous rassure, vous n'allez pas manger l'arme des crimes.
Et
vous me rassurez, effectivement.
Et mayonnaise citronnée, effectivement, avec cet œuf mayo qui est cuit à la perfection.
6-20.
Non!
À sa température, il ne faut pas que ça sorte.
Alors, il n'est pas dur, là, il est mollet.
Il est mollet. Comme ça, elle va enrober les maillots, la boutargue. Il n'y a pas de mâche pour l'œuf. Si ça coule, ça continue dans le 6-20.
Pour ouvrir le palais comme ça, un dimanche midi, c'est bien vu, votre mayonnaise citronnée.
Je suis ravi.
On n'y pense pas assez à mettre un petit peu de citron. C'est du zeste ou du jus de citron dans
du
la mayo?
Du jus de citron, du zeste à la fin.
Et des zestes à la fin, et puis cette poutargue râpée par-dessus. Vous cuisinez un petit peu, Bernard Minier?
Alors, cuisiner, c'est un
bien. Fait des photos de plats. Hein. Il est à fond sur la beauté des plats. Hein.
Ah bah absolument, c'est vrai, c'est une œuvre d'art. Cuisiner, ça serait quand même faire insulte aux chefs et aux artistes du fourneau. Il m'arrive de bricoler des petites choses, mais non, mais quand il faut faire preuve d'humilité, chacun son métier, quand je vois ça.
Mais on peut cuisiner au quotidien sans vouloir se confronter aussi à des grands chefs.
Bah d'ailleurs, vous administrez des leçons quotidiennes de cuisine qui sont remarquables parce qu'elles sont simples à faire.
C'est une cuisine de tous les jours.
Oui, mais j'ai quelques bouquins de cuisine, un des vôtres d'ailleurs, mais en fait, quand je mets le nez dedans, je recule tout de suite parce que je sens que ce n'est pas fait pour moi.
Et qu'est-ce que vous faites rien du tout, vous faites
si,
comme
si, ça
voilà. Alors qu'est-ce que vous faites dont vous êtes content en cuisine?
Je fais. Alors, à une époque, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, je faisais le tiramisu. Et non seulement je faisais le tiramisu, mais je faisais même le biscuit. C'est-à-dire que je faisais le biscuit moi-même. En fait, il n'y a rien de plus simple finalement que de faire un biscuit. C'est très
au four. Alors, si on veut faire un vrai biscuit, c'est cuit en deux fois puisque bis. Cuit, hein, c'est l'étymologie, vous qui êtes attaché au mot, ça a son importance. Alors revenons à votre roman, Lucia, paru chez Ixo Éditions. L'action se déroule en Espagne au cœur d'une université. Vous aimez cette ambiance de travail, d'études, de recherche?
Moi, je suis un étudiant frustré en quelque sorte. J'ai laissé tomber mes études très tôt, je suis un autodidacte, mais je suis fasciné par le savoir à l'ancienne, par l'érudition, la vraie, véritable érudition. Et donc, je me suis dit, ça va se passer dans une vieille université, un petit peu l'esprit, le nom de la rose, quelque chose comme ça.
On est en plein dedans. Ça m'a fait penser au nom de la rose, non mais vraiment.
Et je me suis dit, Oxford, Cambridge, c'est déjà fait. La Sorbonne, aujourd'hui, Paris, c'est pas ça. Et donc, je veux dire, c'est une ville trop moderne. Et j'ai pensé à cette très vieille université de Salamanque, qui a été fondée en 1218. Et quand je suis rendu sur place, j'ai découvert une ville extraordinaire, qui était une espèce de musée à ciel ouvert, un décor de cinéma, c'est totalement incroyable. Et je me suis dit, c'est le décor parfait. Et en même temps, on a à un kilomètre de là, parce que tout se fait à pied à Salamanque, les bâtiments ultra-modernes de l'université, la fac des sciences, la faculté de droit. On a ce groupe d'étudiants en criminologie dont les bureaux sont dans le sous-sol de la faculté de droit et qui existe.
On l'entend, vous ne le faites pas semblant, vous allez vraiment sur le terrain pour chercher des informations et pour que ce soit la vérité la plus proche du réel, en fait.
Parce que les détails sont importants, parce que les détails font la différence. Les petits détails, et effectivement, ce groupe existe, je les ai rencontrés. Alors après, ils passent par leur temps à chasser les tueurs en série. Hein. Ils ont autre chose à faire, déjà obtenir leur doctorat. Et tout ce que je leur fais subir, ça, après, c'est le travail d'imagination de l'auteur. Parce que, évidemment, une fiction, c'est d'abord de l'imagination.
Et voilà. Alors, ce que j'aime aussi avec vous, c'est votre parcours, Bernard Minier. C'est-à-dire que vous étiez, avant d'être un écrivain, un succès et un des auteurs les plus lus en France, vous étiez dans la fonction publique, vous étiez dans les douanes. Comment on passe, en fait, de l'administration des douanes à l'écriture de thrillers? C'est quoi le déclic?
Le déclic, c'est qu'en fait, j'ai toujours écrit, et le déclic, c'est simplement envoyer un manuscrit aux maisons d'édition, ce que j'avais jamais osé faire auparavant. J'ai fait plein de concours de nouvelles, et un jour, j'ai décidé de m'essayer au thriller, au roman policier. Donc, j'ai écrit Glacé, mon premier roman. Je l'ai envoyé aux maisons d'édition, et à 5 grandes maisons, et sur les 5, 4 m'ont répondu, avec 6 euros de timbre, même pas en recommandé. 6 euros timbre imprimé, j'ose le dire aujourd'hui, sur les imprimantes de l'administration, parce qu'il y avait, quand même 600 pages à chaque fois. Et j'ai quand même reçu la première réponse au bout de 3 semaines. Et c'était une très grande maison, très connue. Et ça veut dire que les maisons d'édition, même les plus grandes, lisent les manuscrits.
C'est une magnifique histoire. Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez enfant, tiens ?
Moi, quand j'avais 10 ans, alors ça date pas d'hier, hein, on est bien d'accord. On lisait tous, en fait, un peu les mêmes choses, et en particulier Bob Moran. On connaît la célèbre chanson d'Indochine. Mais effectivement, on lisait tous des Bob Moran, ces aventures de cet aventurier qui allait aux quatre coins du monde, qui était l'espèce de héros parfait, comme on l'imaginait à l'époque, sans faiblesse, sans... Ce qui aujourd'hui, évidemment, fonctionne un peu moins. Aujourd'hui, on aime bien les héros avec des failles, avec des faiblesses. Même James Bond, aujourd'hui, a ses fragilités.
Exactement, oui.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous revoilà en cuisine pour préparer la table du dimanche de Bernard Minier. Nordine Labia, le chef du restaurant à mi-chemin. Eh bien, il est plus qu'à mi-chemin, il est en bonne voie pour réaliser un beau tagine de poisson. On va en reparler dans un instant. Bernard Minier, vous êtes venu nous voir avec Lucia, votre dernier thriller. Un mot quand même, hein, sur vos romans. J'ai fait les comptes, hein, j'ai regardé les relevés, comme on dit. Près de 5 millions d'exemplaires en 10 ans de romans vendus. Vous êtes traduit dans 25 langues. Vous écrivez de la même façon que pour le premier roman. Vous nous avez parlé du premier roman avant la pause que vous avez bien envoyé comme sûr. Ça. Et où est-ce que le succès met une pression ?
Non, assez curieusement, je ne me mets pas trop la pression. Non. J'évite d'y penser quand j'écris. En fait, je pense ni au lecteur, ni à la presse, ni à qui que ce soit. Je me fais plaisir, je mets les ingrédients dans ce plat, puisqu'on parle de plat. Quelqu'un a dit je cuisine les plats que j'ai envie de manger. L'écriture, c'est pareil. Je cuisine les plats que j'ai envie de manger. Je mets dedans les ingrédients que j'ai envie de trouver moi en tant que lecteur dans un thriller. Je m'amuse tellement à faire ça et à écrire, manipuler mes personnages, à brouiller les pistes, à inventer des histoires de plus en plus folles, que finalement, je ne pense pas à tout le contexte, ça vient après.
Alors, vous nous avez parlé de l'importance des détails. Hein, l'action de ce dernier thriller, Lucia, se déroule en Espagne. Mmh. Elle va être aidée par un groupe d'étudiants en criminologie qui est dans l'université de Salamanque. Vous êtes allé dans cette université pour vraiment vous inspirer et faire une éponge, hein, comme les auteurs qui aiment bien comprendre les lieux. Ça veut dire que vous allez jusqu'à imaginer ce que vos personnages mangent et goûtent en cuisine ?
Absolument. D'ailleurs, il y a souvent des plats qui sont glissés en contrebande, en quelque sorte, dans mes romans. On voit parfois les personnages manger parce que je tiens à ce que ça soit la vraie vie. C'est pas des moines soldats. Ils passent pas leur temps uniquement à mener l'enquête. Non, ils vivent à côté. Ils ont des problèmes personnels. Ils ont des enfants qui grandissent, mais et aussi également ils mangent. Et comme je suis quand même quelqu'un qui aime bien manger, ça me permet aussi de parler un peu de temps en temps de cuisine, de repas.
Moi, ce que j'aime avec vous, c'est que vous alternez entre le récit et les dialogues. Il y a des vraies scènes de dialogue. C'est pour ça que, on le disait au début de l'émission, c'est tout de suite imagé ce que vous écrivez. On voit une série télé, on voit un film, quoi. C'est pas par hasard que Glacé était adapté sur M6 il y a quelques années.
Bien sûr, parce que le dialogue, c'est vivant. Le dialogue, ça fait vivre les personnages. Et puis, on peut faire passer tout un tas d'informations à travers un dialogue, c'est-à-dire... Plutôt que d'expliquer les choses, il ne faut jamais expliquer les choses dans un roman, il faut les montrer. Avec un dialogue, vous montrez aussi la personnalité de la personne qui parle.
Exactement. Ça sent bon, Nordine. Qu'est-ce que ça sent bon ? Oh là, le revoilà encore avec un bar. Il n'y en avait pas assez dans la cocotte ?
Quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Alors, tac, il coupe la tête du bar, un beau bar sauvage. Là, vous le grattez un petit peu, c'est ça, on gratte les
écailles ? Il reste tout le temps,
hein, voilà, un petit peu. Et en darne, donc des tranches, tout simplement. Il va retrouver ses copains dans la cocotte, avec des pommes de terre, du fenouil. Et pas mal d'épices. Il y a un petit bouillon, il y a un petit liquide pour faire l'osmose ou c'est simplement
juste
la vapeur.
On va arroser avec un verre d'eau qu'on va mettre une tête de barre dedans pour amener plus de parfums.
Un petit fumé express.
Voilà, un petit fumé, pas trop.
Vous avez écrit 7 romans, Bernard Minier, qui mettait en scène un homme, hein, le commandant Servaz, Martin Servaz, on en parlait. C'est facile de lâcher un héros pour en inventer un autre, comme cette Lucia ?
Lucia, elle est venue à maturité petit à petit, hein. Comme un bon pot-au-feu. Voilà, elle n'est pas apparue du jour au lendemain, quoi.
Et comment elle est venue, tiens ?
Elle a mijoté
doucement. Comment elle est née ?
Elle était dans un coin de ma tête. Je voulais un personnage féminin. Je pensais à ce personnage-là. Je pensais aussi ou personnes qui ont servi de modèle à ce personnage. Et je me dis que ces personnes-là, finalement, elles feraient un bon personnage. Donc, petit à petit, elle était là pendant un certain temps. Et à un moment donné, voilà, le moment est arrivé où je me suis dit, c'est le moment de la mettre en scène.
C'est le personnage qui donne le réflexe de l'histoire ou c'est le contraire? Vous avez l'histoire en tête et vous cherchez le bon personnage?
C'est un va-et-vient entre les deux. J'ai une histoire, évidemment, que je veux raconter. J'ai des idées. En fait, au départ, c'est comme une espèce de soupe primordiale. Alors, pas une soupe au sens culinaire du terme, plutôt au sens biologique et voilà.
Une osmose.
Oui, une espèce de potage où tout surnage et petit à petit, tout ça, ça va faire sens et ça va se préciser. Mais au départ, tout vient plus ou moins en même temps.
Il pourrait se croiser dans un futur roman, Martin Servaz qu'on connaît dans cet roman déjà et cette Lucia Guerrero qui fait son apparition dans votre nouveau thriller.
Alors, chaque chose en son temps, un pas après l'autre, on verra. Pour l'instant... Je pense que ça va être un coup Lucien, un coup Martin. Je vais alterner et puis peut-être un jour un crossover. Oui, c'est pas exclu, mais enfin, c'est quand même un peu prématuré.
Alors, vous parlez souvent de la rencontre entre vos lecteurs et vos personnages, comme s'il s'agissait de personnages réels, en fait, hein, pour vos lecteurs. C'est ça le secret de vos thrillers, de votre succès, vous diriez?
Je pense que c'est... Oui, parce qu'en fait, un thriller, c'est d'abord un exercice d'extrême empathie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment provoquer l'identification des lectrices et des lecteurs avec un ou plusieurs personnages. Et à partir de là, ces lectrices et ces lecteurs vont suivre le personnage, vont voir l'accompagner dans ses aventures, dans ses épreuves, dans ses tourments, dans ses espoirs et dans ses peurs surtout. Ils vont avoir peur avec lui, ils vont avoir peur pour lui, ils vont vouloir que le personnage surmonte les épreuves. Donc oui, c'est d'abord une question d'empathie et d'identification. Et cette empathie et cette identification, moi, je la provoque tellement que finalement, mes lectrices et mes lecteurs... Quand ils viennent me voir dans des salons, dans des festivals, on a presque l'impression qu'ils parlent de personnes réelles quand ils parlent des personnages. Oui, oui. C'est ça qui c'est la plus belle récompense pour un auteur.
Tiens, en voilà un qui aime aussi s'attacher à des personnages et puis qui a de l'empathie, mais ça dépend pour lesquels en même temps. C'est Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour,
Rubin.
Bonjour.
Merci d'être là. Bonjour. Critique gastronomique au Figaro. On vous retrouve chaque dimanche à cette table. Alors, ce dimanche, vous êtes inspiré des origines espagnoles de Bernard Minier pour nous parler d'un héros, là aussi, de roman policier. On pourrait dire que c'est le Maigret espagnol.
Oui,
on peut le dire.
Alors, je vois de qui on va parler.
Allez-y.
Oui, Manuel Vázquez Montalbán, Pepe Carvalho.
Pepe Carvalho. Pepe Carvalho. Pourquoi Pepe Carvalho? Bravo. Espagnol, effectivement, l'un des plus grands privés de fiction de la littérature espagnole. Et puis, on l'invite doublement à la table du dimanche, parce que non content d'être un détective hors pair, c'est aussi un gastronome de folie. Vous allez voir ça, je ne blague pas.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
C'est la table du dimanche de Bernard Minier. Il est venu accompagné de Lucia, sa nouvelle héroïne de fiction, en cuisine. Nordine Labia prépare un tagine de poisson. On va se rapprocher de Nordine qui est au fourneau. Alors, je vous décris la scène. Hein. Comme dans un roman de Bernard Minier, on va essayer de ne pas oublier les personnages. Une belle cocotte en fonte, et puis elle n'est pas petite. Hein. Elle ne fait pas de la figuration, la cocotte.
Par les poissons, c'est mieux de ne pas mettre le morceau l'un sur l'autre. Pour avoir l'espace comme ça, c'est pas cassé.
Du fenouil, des pommes de terre.
Du fenouil, des pommes de terre.
Revenu dans quoi? Dans un petit peu d'huile d'olive au départ.
Voilà, l'huile d'olive pour démarrer. Dès que les oignons, il y a des oignons, ils ont lâché la jus. Donc ça va faire, avec les fenouils, ça va faire les jus de cuisson.
Et cette couleur rouge-orangé, c'est quoi?
Rouge-orangé, un peu de paprika. Il y a des fenouils moulus, des carvies et de coriandre. Des citrons confits aussi.
Et les poissons?
Voilà, on va les déposer ici. Et on va mettre nos amandes et nos olives Kalamata, et il y aura le tagine qui est déjà prêt.
Et combien de temps de cuisson?
Trois
quarts d'heure, le poisson avec avec les légumes?
Trois quarts d'heure. Ouais, ça dépend comment taille nos légumes.
Trois quarts d'heure avec les légumes, carrément. Donc la cuisson du poisson, elle va être courte alors?
Elle va être courte, elle va être 10 minutes.
10 minutes, la cuisson du poisson, de bobard sauvage taillé en tranches, c'est ce qu'on appelle des darnes. Ça vous inspire, Bernard Minier?
Oui, le tagine, c'est un de mes plats préférés. Et puis vous savez que le simple fait de penser à son plat préféré, c'est prouvé. Réveille en nous de la dopamine, cette hormone du bien-être et du plaisir qu'on trouve également, entre autres, dans le sexe. Donc, il faut souvent passer à son plat préféré.
C'est vrai, mais la cuisine a une vraie sensualité, on ne cesse de le dire.
Complètement. Hein. Et puis, elle peut être mise en mots aussi. Il y a des pages merveilleuses sur la cuisine.
Bernard Minier, j'ai relevé des éléments de notre quotidien et de notre passé. dans votre nouveau thriller, dans Lucia. Vous allez me dire ce qu'il représente pour vous. Tiens, par exemple, il y a un suspect dans le roman, dans le thriller, qui se réjouit de la naissance d'Internet. Et pour lui, c'est la plus grande boîte de Pandore de l'humanité. Vous êtes d'accord avec ça ?
C'est vrai que ouais, ça fait écho, j'ai souvent parlé des réseaux sociaux et d'Internet dans mes romans, en particulier dans M. Le Bord de l'Abîme, qui parlait d'intelligence artificielle. Parce que, oui, parce qu'on voit bien l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui. Facebook, c'est quand même 2,5 milliards de personnes, c'est considérable. Et on a ce qu'on appelle ce biais d'information, c'est-à-dire ce que Étienne Klein, lui, appelle un chez-soi idéologique. C'est-à-dire qu'en quelques clics, on se bâtit ce chez-soi idéologique dans lequel on rencontre que des gens qui pensent comme nous. Et finalement, les valeurs de cette communauté finissent par l'emporter sur les valeurs qui nous unissent. Et c'est là où est le danger. C'est quand on se déchire, on ne peut plus dialoguer parce qu'on est tous dans nos petites chapelles, nos petits clans. Moi, je trouve ça assez inquiétant, ouais, le monde qu'on nous propose.
Il est aussi question de nouvelles technologies hein, dans Lucia, avec un logiciel utilisé par votre groupe de criminologues, Dimas.
Dimas,
on l'appelle comme ça. Ça m'a fait penser un petit peu, moi, à Macrim, ce logiciel qui permet de recouper les pistes.
Bah oui, ou au VICAP. Le fameux VICAP du FBI américain. Oui, c'est un logiciel qui permet de détecter finalement de relier entre des faits qui jusque-là étaient isolés parce que les services de police ne communiquaient pas entre eux ou étaient géographiquement éloignés les uns des autres. Et c'est ce qui va permettre à ce groupe d'étudiants en criminologie, leurs professeurs, finalement, de repérer les premiers un tueur monstrueux passé sous les radars pendant des décennies, de relier entre
pendant
des faits
30
isolés.
Ans.
C'est ça. Parce qu'en fait, déjà, il ne tue pas tout le temps. Il a eu une longue période
d'inactivité.
Et c'est la question, pourquoi pendant tant de temps il a été inactif avant de reprendre du service ? Et alors, ce logiciel n'existe pas, contrairement au groupe d'étudiants en criminologie dont j'ai parlé. Mais voilà, Lucia, c'est aussi un aller-retour entre le passé le plus ancien, la tradition, les métamorphoses d'Ovide, dont il est beaucoup question dans le livre, les peintures de la Renaissance. Donc c'était ce va-et-vient entre quelque chose de très contemporain et quelque chose de très ancien qui m'intéressait.
Eh ben nous aussi, on aime faire des va-et-vient ici entre la cuisine et la salle à manger. Eh bien, c'est le moment d'aller retrouver à la salle à manger Emmanuel Rubin, qui, comme le professeur Rollin, a toujours quelque chose à dire, monsieur Rubin. Et vous allez nous parler donc d'un privé hein, et gastronome bien connu de la littérature espagnole. Il s'appelle Pepe Carvalho. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Pourquoi il a retenu votre attention, ce Pepe Carvalho, alors ?
Alors, comme vous le disiez, Carvalho, d'abord, c'est un monstre sacré, une grande figure du polar international. Hein. C'est pas simplement espagnol. Mais il est espagnol, il est d'ailleurs un peu à l'Espagne ce que Maigret à la France. Et on le doit à un très grand auteur de polar, espagnol donc, Manuel Vázquez Montalbán. Il a disparu en 2003 et c'est en 72 exactement qu'il crée ce drôle de privé. Alors, Pepe Carvalho, c'est son nom. Il a d'abord été enseignant, puis il a été militant politique, plutôt communiste. Il a d'ailleurs tâté de la prison avant de virer détective. Alors, c'est un Catalan. Il est installé à Barcelone. Il est toujours entouré de deux personnages. Sa compagne, qui est par ailleurs prostituée, et puis un homme à tout faire, qui lui est un cuisinier sincère de formation.
Alors on en parlait, la cuisine justement, c'est l'autre grande affaire de ce Pepe Carvalho.
Et qui s'appelle Biscuiteur en plus.
Exactement, Biscuiteur, ça c'est le nom de son factotum. Ouais. Alors, pour continuer dans les comparaisons, les casseroles et les restaurants, c'est à Pepe Carvalho ce que sont un peu le violon et l'héroïne à Sherlock Holmes. C'est-à-dire véritablement des passions dévorantes. Sincèrement, lisez l'ensemble des ouvrages, vous allez voir... La gastronomie, les restaurants participent au moins autant de l'intrigue. Ils nourrissent au sens propre l'intrigue. Et quand on lit tous ces romans, on a à la fois affaire à un grand maître du polar, du roman policier, un peu traditionnel, parce que Montalbán, il sait mijoter une intrigue, une atmosphère, trousser des dialogues. Mais il y a quelque chose aussi du critique culinaire. On pourrait lire tous ces bouquins et finalement avoir une manière de dictionnaire du terroir espagnol ibérique de la cuisine. Ibérique et pas seulement d'ailleurs.
Alors on peut déguster quelques plats tirés des pages hein, d'ailleurs.
Alors il y en a pas mal, il y en a énormément d'ailleurs. Montalbán a écrit 2 livres de cuisine et tellement son héros mettait l'eau à la bouche qu'il a écrit lui-même un ouvrage qui s'appelle et qui a été traduit en français aux éditions chez son éditeur, hein, c'est-à-dire Christian Bourgois. Ça s'appelle « Les recettes de Carvalho ». Il a aussi écrit un autre ouvrage de cuisine qui s'appelle, je crois, « Les recettes immorales », où il a un côté quasiment ethnographe de la cuisine. Il est assez étonnant. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les vermicelles à la boutifara. Alors, à la boutifara, vous savez ce que c'est ?
Non, dites-nous.
Eh bien, une grosse saucisse au sang parfumée d'épices. Parce que tous les plats qu'on retrouve... Chez Pepe Carvalho, ben ça ressemble un peu à la cuisine de Nordine. C'est-à-dire une cuisine rustique, véritablement du tiroir, toujours maniérée d'épices, d'oignons, une cuisine roborative. Il faut savoir que Ce que j'aime beaucoup dans l'ouvrage, c'est que en creux, à rebours, à chacun des romans, vous avez un petit peu des éléments égotiques, biographiques de ce Pépé Carvalho. Et on apprend qu'il n'a pas toujours mangé à sa faim, sa mère cuisinait pas, mais un jour, son papa l'a emmené au restaurant. C'était un restaurant chinois de Barcelone. Et là, le gamin est ébloui. Et devenu adulte, il avouera plus tard dans un roman que le restaurant, c'était une initiation à un rite passionnant. Et puis, il y a une autre réplique que j'adore dans un de ses romans. Un des personnages lui dit... Vous n'abandonnez votre cynisme que quand vous parlez cuisine, car c'est un cynique, hein, Carvalho.
Et la botifarra, je permets d'interrompre, la botifarra, c'est aussi un plat catalan. Et il y a aussi un plat catalan célèbre qui avait base de botifarra, qui est la botifarra con julias. Qui, voilà.
Il faut les prendre en chroniqueur.
Ah, mais non, mais vous étiez bien inspiré par. On le rappelle, hein, si vous prenez l'émission en cours, votre maman est d'origine espagnole, Bernard Minier.
Alors, côté aragonais, pas catalan, mais c'est pas très loin.
C'est pas très loin. Juste à la réplique, donc, vous n'abandonnez votre cynisme que quand vous parlez cuisine. J'adore la réponse de Pépé Carvalho, en vérité, la réponse de Montalban. C'est le seul savoir innocent que je connaisse. Tout autre savoir est dangereux. Et moi, je crois bien que la cuisine a encore quelque chose de l'innocence.
C'est magnifique. Et il faut préciser que le dictionnaire gastronomique de Manuel Vázquez Montalban, si je ne me trompe pas, il y a 10 volumes, hein, quelque chose comme ça.
Ah oui, mais c'était vraiment une passion sincère.
C'est une œuvre considérable.
Alors, il aimait à dire, Montalban, que généralement, ses personnages lui échappaient. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais là, en vérité, je pense qu'elle ne l'échappe pas totalement parce que sa passion culinaire était véritablement marquée. Mais c'est un très, très, très grand romancier.
Absolument.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez lire tous ses ouvrages en poche chez 10-18.
Absolument. C'est le maître du polar espagnol. C'est le parrain. Et tous les auteurs de polar espagnol, parce que le noir espagnol, aujourd'hui, a plein de grands talents. Des gens comme Ledesma, comme Lorenzo Silva, comme Victor Del Arbol, comme plein d'autres. Tous reconnaissent Manuel Vázquez Montalban comme leur maître.
Je vous souhaite le prix d'ailleurs, il y a un prix, Manuel Vázquez Montalban, les plus grands auteurs le reçoivent, je vous le souhaite vraiment.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous voilà toujours en compagnie de Bernard Minier à la table du dimanche. Il est venu nous voir avec Lucia, l'héroïne de son dernier thriller chez XO Éditions. Un joli pavé qui se dévore, près de 500 pages hein, tout de même.
Oui,
pas semblant.
Hein. Ah oui, c'est de la cuisine roborative, hein, on est d'accord. Mais ça se mange sans fin, je vous rassure.
Alors, c'est l'heure d'accueillir une nouvelle invitée à table, une comédienne populaire et exigeante que vous aimez beaucoup. Et elle aime beaucoup la cuisine. Et en ce moment, elle est baronne au théâtre Héberto, dans le fil à la patte de Feydeau. Catherine Jacob nous rejoint. Bonjour, chère Catherine.
Bonjour.
Oh, mais je vous fais le baise-main,
bonjour.
Tiens.
Bonjour.
Mais elle est venue avec des cadeaux.
Oui, la concurrence.
Bon. Oh, c'est bon, ce parfum,
oui.
Là.
Oui, c'est moi.
Installez-vous, Catherine. Mais vous êtes venue avec un dessert de chez Cyril Lignac. Et vous ne faites pas semblant, vous, hein?
Non, mais
vous aviez peur de ne pas avoir assez à manger?
Non, c'est ma petite vie de quartier. Je ne suis pas loin.
Je vous présente Bernard Minier, Catherine Jacob. Catherine Jacob, Bernard Minier.
Oui.
Vous connaissez?
Non.
Non, c'est la première fois.
Moi, je la connais, évidemment. Je l'ai vue maintes fois sur les écrans, bien entendu.
Est-ce que vous aimez vous faire peur à lire des thrillers de temps en temps, Catherine Jacob?
Oui. Moi, je suis toujours très fascinée par la construction de ça. Comment vous pouvez anticiper le personnage ou bien... J'arrive pas à croire les gens qui me disent « Ah, ça s'écrit tout seul, non. » Je crois
vraiment qu'à
l'anticipation et au travail,
raconte,
on va dire.
C'est très travaillé. Et votre dessert, dites donc, il est bien travaillé. Ce serait pas l'équinoxe de Cyril Lignac?
Très fort.
C'est ça, hein?
Wow.
Eh oui. Bah, merci d'être là, Catherine Jacob.
Merci à vous.
Alors, vous non plus, vous ne faites pas semblant. Vous brûlez les planches du théâtre Héberto.
Ça ne brûle pas. Mais
Si, si, parce qu'il y a une
vraie présence.
J'ai
jamais compris pourquoi ça brûlait, d'ailleurs.
Bah, brûler les planches, c'est enflammer le public.
J'arrive et tout fou.
C'est enflammer le public.
Ah,
c'est ça, brûler les planches. Un petit œuf maillot, tiens.
Ah, c'est pas mal, oui.
Hein, avec de la poutargue, ça vous plaît?
Très bien. Ah, râper la poutargue.
Oui, râper la poutargue. Oui, non, parce qu'on a affaire à une experte.
Non, ça va. Petit coup de fourchette, quoi, c'est tout.
Oh, tiens. Bon, non. Bah, tiens, qu'est-ce que vous cuisinez le dimanche? Racontez-nous, en général.
Pourquoi le dimanche?
Non, mais parce que là, on est dimanche,
tous les
jours. Les autres jours.
Mais non, moi, je fais le marché, d'abord. Hein, alors, ou le mercredi, ou le samedi. Et donc, c'est l'humeur, c'est les produits de saison.
Vous êtes sur scène actuellement dans le fil à la patte de Feydeau au théâtre Héberto et le dimanche, vous jouez à 15h?
À 15h et du mardi au samedi à 21h.
Déjeuner léger avant la matinée du dimanche?
Petit-déj et puis rien d'autre. Mais pas le petit-déj franchouillard, je déteste là, les tartines, la confiture, tous ces machins-là, je ne veux pas. En fait, quand je me lève, je mange les restes. Voilà.
C'est ça.
Voilà, ça tient au corps, mais je ne touche à rien avant. Moi, je ne comprends pas. J'ai des petits collègues qui mangent avant, mais ils sont de solides constitutions. L'idée de digérer sur scène, non, ça ne va pas.
La cuisine, c'est essentiel pour vous, hein?
Bah, les produits honnêtes,
Oui, vous n'aimez pas manger n'importe quoi,
non.
Vous le dites. Vous n'aimez
non,
pas
oui.
manger de plats préparés, vous aimez ouais. savoir ce que vous mangez. C'est pour ça que vous
et
cuisinez aussi.
Hein, quand même, pour regarder un petit peu les étiquettes. Voilà.
Ah bah oui.
Donc moi, je préfère manger ce que je fais avec mes petits moyens.
Voilà.
Mais j'ai vu un très joli reportage sur votre chef.
Ah, Nordine Labia, qui est avec nous. Vous avez vu ça ? Vous êtes une sommité, vous êtes une star, Nordine Labia.
Ouais.
Elle a vu un très beau reportage sur vous. On va lui offrir vos livres, tiens, à Catherine Jacob, vos beaux livres Paris-Tunis et Couscous que vous avez sortis.
Reportage en Tunisie avec ses parents.
Très gentil.
Sa maman qui fait une recette inouïe pour moi à base d'abats, si vous l'aimez. Bon,
vous n'aimez voilà, pas les abats ?
Non.
Non, il n'y en a pas. C'est du poisson, c'est du bar. Oui. Votre restaurant s'appelle à mi-chemin, on le rappelle, une cuisine à mi-chemin entre vos racines d'Afrique du Nord, la Tunisie, et puis votre cher et tendre qui est originaire de Virginie. Bretagne. Virginie qui est originaire de Bretagne.
On devrait l'appeler Paris-Tunis-Lorient.
C'est ça, Paris-Tunis-Lorient, puisque ouais. le bar vient de Lorient que vous êtes en train de cuisiner. Donc, cuisson courte, hein, vous l'avez dit, en cocotte
oui.
pour ce bar. Combien de temps ?
On est prêt, là.
On est prêt ? Ah, ben, on vous laisse débarquer avec le tagine de poisson. Catherine Jacob, j'ai lu dans le Figaro ces mots sur votre pièce, le
très
fil
bon
à
journal.
La patte de Fedot, très bon journal. C'est pas Emmanuel Rubin qui va dire le contraire. Sur votre pièce, le critique disait les choses suivantes. Ça va très vite, ça fait beaucoup rire, c'est l'été enfin. J'aime bien cette formule.
Moi, je dirais c'est le printemps tout de suite, parce qu'on en a un peu marre. Et oui, c'est léger, hein, c'est Fedot. Bon, ça, c'est une pièce qui a 125 ans.
Ouais, mais elle est moderne. Alors justement, vous l'avez remodernisé. Votre metteur en scène, Christophe Lidon, a donné une petite touche jazzy. Ça se passe dans le Paris oui. des années 50.
Oui, c'est un petit look comme ça, plus frais. Quoi. Puis moi, je ne pleure pas toutes les larmes de mon corps de ne pas mettre de corset tous les jours. Vous voyez.
Oui, c'est, ça, c'est
non,
pas...
Non, c'est, bon, c'est mignon. C'est plutôt pour le personnage du fil à la patte, qui n'est pas moi, qui est le personnage de Lucette Gauthier, c'est-à-dire Noémie Elbaz, qui est la pauvre fille charmante, chanteuse de cabaret, que M. de Boisdanguin n'arrive pas à larguer. Parce que dans les pièces de Fedot, entre l'amour et l'argent, on choisit l'argent.
C'est ça. Vous...
Et l'argent, c'est moi.
C'est plein de lucidité, c'est plein de méchanceté, de drôlerie, toujours, Fedot. On ne rit pas des choses, de toute façon, gentillette.
Bah non. En fait, la petite oie blanche, elle n'est pas si blanche que ça, hein, quand même.
J'ai lu que petite, vous accompagniez votre mère à la Comédie Française.
Non, oui,
hein
oui.
Bah oui.
M'emmener sous le bras.
Bah oui, et
oui.
ça vous a donné des idées pour la suite, ouais. vous pensez ?
Ah ben, bah, j'en suis sûre. Je veux dire, j'ai été électrocutée tout de suite. Boum,
coup de foudre.
Oui, moi, j'ai vu Catherine Samy dans Nicole, qui se foutait du bourgeois gentilhomme. Extraordinaire.
Vous l'avez joué, le bourgeois gentilhomme ?
Oui, mais moi, je faisais Madame Jourdain. Qui se demande pourquoi son petit mari part en vrille. Enfin bon, c'était formidable. Mais c'était avec Jérôme Savary, donc on avait tous les droits. Hein. Et puis j'ai vu Denise Jeans, et puis j'ai eu un DVD, moi, du fil à la patte, qui a été capté en 72 avec Jean-Pierre, avec Micheline Boutet. Enfin bon, bref, des références énormes.
Le fil à la patte, un petit mot sur l'histoire. Je le redis, vous jouez la baronne, vous allez marier votre fille, sauf que c'est plus compliqué que ça parce que le futur mari a une maîtresse. On continue d'en parler à la table du dimanche et on revient avec Bernard Minier et il attend sagement le tagine de poisson, Bernard Minier.
Oui, j'attends. Hein, enfin, c'est plutôt mes papilles qui attendent. Je commence à saliver.
Eh bien, il arrive le tagine de poisson.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci d'être des nôtres si vous êtes là depuis 11h. La table du dimanche est dressée autour de Bernard Minier. Lucia, c'est le nom de son nouveau roman pour tous les amateurs d'enquête et de frissons. Catherine Jacob nous a rejoint avec un fil à la patte, un classique de Fedot et au fourneau. Alors là, le geste à la parole. Nordine Labia du restaurant à mi-chemin avec un beau tagine de poisson dressé à la seconde sur notre table.
Magnifique.
On va le décrire. Alors là,
voilà le tagine.
Quelles sont les épices qui composent ce tagine de poisson ?
Cavi, coriandre, fenouil, curcuma et pied de paprika pour l'amener vers un couleur un peu plus vif que
alors,
le jaune.
Vous avez commencé par cuire, on l'a entendu tout
les
à
oignons.
L'heure, les oignons avec les pommes de terre dans de l'huile d'olive, des épices déjà par-dessus. Le bar sous forme de darne est arrivé ensuite.
Fenouil et bar, et on a fini par les épices.
Et un petit peu d'eau.
Et un verre d'eau.
Très, très peu, en fait. Ouais. Et on cuit ça à couvert, effectivement. Et puis, la vapeur produite par la cocotte va nourrir et va cuire notre
meilleur tagine au monde, c'est une cocotte en fonte.
Ça, c'est drôle. C'est pas un plat. Alors, c'est marrant que vous disiez ça, parce que le tagine, c'est aussi le plat en terre cuite qui donne son nom à ce plat.
C'est le même principe, mais tout le monde n'a pas ça en France à la maison. Donc moi, c'est ce qui m'encourage, c'est les gens avec la cocotte vont faire un tagine aussi.
Dans le très joli documentaire que j'ai vu sur vous, je vous vois aller faire votre hasselnoute avec un ami.
Oui, depuis...
Ouais, mais ça devient de plus en plus fin, de plus en plus sophistiqué.
Oui, on va parler du hasselnout, parce que hasselnout, en arabe, ça veut dire la tête de l'épicier. Hein, c'est un mélange d'épices.
Voilà.
La tête de l'épicier, mais elle est coupée ou elle est sur le corps?
Ah oui, voilà.
On reconnaît l'auteur de
ce livre. C'est le début d'un polar.
J'ai changé de place, moi.
Il peut pas s'empêcher. D'accord. Alors, Catherine Jacob, on a choisi un tagine de poisson parce que c'est quelque chose que vous pourriez faire tranquillement en semaine, ça. Hein?
Oui, je pourrais le faire tranquillement. Peut-être pas aussi bien, mais tranquillement, oui.
Quels sont vos plats que vous faites, tiens, que vous dégainez quand on vient manger chez vous, Catherine Jacob?
Fut un temps, je pouvais recevoir. Maintenant, je vis dans un autre endroit, mais j'aimais bien faire comme si tout était facile, vous voyez. Donc, je préparais tout à l'avance et c'était plutôt froid. Donc,
il y avait une vraie mise en place.
Ah oui, oui. Ouais. Mais comment faites-vous ça, machin? En réalité, j'avais marné pendant une semaine. J'avais un très, très grand frigidaire. Donc, c'était dressé dans des grands plats. C'était un buffet. Chacun faisait ce qu'il voulait.
C'était quoi, par exemple?
Mais des salades composées, des choses très sophistiquées.
Mais parce que, elle ne veut pas dévoiler toutes ses recettes.
Ça dépend de la saison.
Ça, c'est bien. Ça dépend de la saison. Voilà, parce qu'on le sait que vous faites votre marché en suivant les saisons. Vous retrouverez cette recette sur europe1.fr. Et elle n'est pas compliquée. On l'a entendu avec vous depuis 11 heures, hein, Nordine.
Elle n'est pas compliquée, mais elle est quand même très, très sophistiquée. Quand même.
Plus important dans la cuisine, c'est démarrer à faire la cuisine. Faut faire déjà.
C'est le dosage des épices qui est sophistiqué effectivement dans
cette
recette.
Jamais trop d'épices.
Jamais trop d'épices. Bah voilà, vous voyez.
Donc autant de l'acidité.
Moi j'ai la main un peu lourde aussi. Hein.
Oui, bah voilà.
Ça peut m'arriver.
Non, mais c'est magnifique. Merci Nordine. On mange avec les yeux. Il est magnifique. Il est corail. Il est rouge orangé. On pourrait le retrouver dans un de vos romans, celui-ci. Hein. Ça pourrait être un personnage principal, Bernard Meunier.
Oui, tout à fait. Oui, mais bon, comme on l'a dit, Manuez Montalban est passé par là, donc il faut mieux éviter de marcher sur ses traces.
Ah, c'est sûr.
C'est quand même quelqu'un qui vous ramène à une certaine humilité.
Eh bien, revenons à votre roman, tiens, Lucia, paru chez Ixo Édition, Bernard Meunier. Lucia, c'est une enquêtrice qui ne lâche rien pour découvrir un tueur qui s'inspire de peintures de la Renaissance. Trois questions, tiens, pour vous cuisiner à la sauce thriller, et puis pour celles et ceux qui veulent un petit peu découvrir le genre.
Cuisinez-moi.
Je vais vous cuisiner, tiens. Quel est votre auteur de référence?
Oh bah, j'en ai plusieurs.
Thriller.
Bon, on a parlé de Montalban, c'est quand même un incontournable. Après, il y a des gens qui ont fondé le genre en France, puisqu'il vient quand même des États-Unis à la base. C'est déjà Maurice Gédantec avec Les Racines du Mal, qui pour moi est un des plus grands polars du XXe siècle. Après, il y a Granger qui a ouvert la porte à tous les autres auteurs.
Aussi.
Et parmi les auteurs aujourd'hui que je suis, il y a Franck Tillier qui est aussi un ami. Et voilà, et qui
un contemporain. Les trois ingrédients d'un bon thriller.
Déjà, je pense qu'il faut, il faut surprendre le lecteur. Et pour surprendre le lecteur, il faut surprendre soi-même. Donc, il y a une phrase de Ivan Kovler qui dit qu'un plan, c'est comme une route, c'est fait pour être quitté. Donc, même si vous avez un plan, il y a des moments où il faut improviser. Le deuxième, c'est la peur, évidemment. La plus ancienne et la plus forte émotion humaine, comme disait Lovecraft, et Dieu sait qu'il savait de quoi il parlait. Et le troisième, c'est le travail. Je pense que c'est le travail sur l'écriture. Il faut avoir une voix. Moi, les polars ou les thrillers qui n'ont pas de voix, ce que Roland Barthes appelait une écriture blanche, c'est-à-dire où il n'y a pas de style, c'est juste une écriture fonctionnelle, ça me tombe des mains. Il faut quand même que dès les premières pages, dès les premières lignes, on reconnaisse son auteur.
Et la meilleure adaptation d'un thriller au cinéma, selon vous?
Il y en a quelques-unes, mais c'est difficile, hein, l'adaptation, en fait. C'est un art très difficile. Je pense qu'il y a quand même un chef-d'œuvre littéraire qui a donné un chef-d'œuvre cinématographique qui est très fidèle en plus. C'est Le Silence des Agneaux.
Ah oui.
Un immense bouquin, un immense film. Donc voilà, c'est peut-être l'adaptation par excellence.
Bah voilà, ça va aiguiller, éclairer nos auditeurs. Vous aimeriez jouer dans un thriller, Catherine Jacob? Vous avez joué dans Hortense, on s'était vu pour ça la dernière fois à la table des bons vivants, Catherine Jacob. Vous foutiez un petit peu les jetons là dans ce film.
J'espère.
Une mère de famille un petit peu
Donc c'était une
spéciale.
Femme qui n'était pas très nette, mais qui avait raconté que sa fille avait disparu alors qu'en fait... C'était pas de sa faute, il y avait eu un accident, mais elle avait juste enterré sa fille dans le jardin. Voilà.
Bon ben. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer qu'on vous a pas proposé?
Moi, j'aimerais être ministre.
Ah oui, je vois bien ministre. Oui.
De la Défense.
Ouais. Ah ouais.
Arriver sur le.
Avec les missiles.
Oui, non, mais sur le Charles de Gaulle, avec 2000 mecs au garde.
Ah voilà, ça c'est ça.
Ça m'amuserait beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour Madame Alliot-Marie.
C'est vrai qu'elle était ministre longtemps.
C'est vrai que les mecs adoraient ça. Hein. Mam,
là, on a une, on a une ministre de la Défense, oui, ministre des armées, femme aussi. Hein.
Oui, bah oui, ministre.
Ministre, voilà. On se régale avec votre tagine, chère Nordine. Un petit mot, vous, le critique du Figaro. Qu'est-ce qu'il en pense, Emmanuel Rubin?
Très bien, avec un vrai plaisir. C'est effectivement la darne, c'est-à-dire qu'on coupe franco le poisson. Mmh. Du coup, on a l'arête centrale qui reste dans la cuisson avec la peau. Et ça, ça ajoute véritablement toujours un plaisir de texture et puis un plaisir de goût. Encore une fois, là, on est dans la cuisine brute de décoffre, mais prenez-le comme un compliment.
Mmh. Non, c'est très fondant, c'est très, très, très bon.
Oui, c'est une cuisine familiale, c'est une
exactement
cuisine du dimanche.
La vraie.
On a un petit peu marre des petits plats avec des petites fleurs.
Oui, le dressage à la pince à épiler, c'est pas votre truc, Catherine Jacob.
Franchement, oui. Hein,
la cuisine d'assemblage, c'est vrai qu'elle est... On le voit d'ailleurs sur la carte des menus, ce sont des slash, la barre en travers, asperges, slash, espuma, slash, œuf de truite,
exactement,
slash, charbon végétal, slash, noisette, voilà. C'est ça, maintenant
pour 30
aussi
grammes dans l'assiette,
c'est ça.
150 euros.
Qu'est-ce qu'on mange à votre carte en ce moment chez À Mi-Chemin, chère Nordine, dans le 14e arrondissement?
Du coq, la boutargue, un bon terrine.
Coq, les coquillages, vous voulez
coquillages,
dire.
Hein, oui. Voilà. Un bon terrine maison, veau châtaigne, et pas mal de couscous sur place ou à emporter.
Ça,
avec la viande de mon ami Godet Noyer depuis 22 ans.
Eh ben voilà, le couscous de Nordine. Quel genre de mangeur êtes-vous, Bernard Minier? On voit que ce tagine de poisson vous plaît, comme Catherine Jacob.
Vous me surprenez la bouche pleine. Là.
Ouais,
en même temps, c'est un peu obligé vu l'émission. Ce genre de cuisine, en fait, quelque chose d'authentique, de vrai, avec surtout avec des ingrédients, comme on l'a dit, honnêtes, des choses finalement assez simples. Alors attention, hein, simple entre guillemets, parce que comme disait Brecht, le simple, c'est difficile à faire. Hein. Et là, il faut un tournement. Mais voilà, avec des ingrédients de base, des ingrédients honnêtes, des ingrédients... Pas des choses trop sophistiquées, trop complexes.
Une cuisine identifiable, comme disait Paul Bocuse. Vous avez un petit côté Bocuse de Tunisie, là, avec cette cuisine, effectivement.
Bocuse de la goulette.
Ah, magnifique.
Le Bocuse de la goulette, chère Nordine. Quel genre de mangeuse êtes-vous, Catherine Jacob? Racontez-nous un peu.
Très élégante, pourquoi?
Ben oui. Mais j'en doute pas.
Dessert.
Non, pas de dessert, c'est fini, ça, chacun a ses plaisirs. Voilà.
Vous êtes venu avec, hein, je vous le rappelle.
Oui, mais c'est pour vous.
On va le partager, vous ne pensez pas qu'on va le manger tout seul quand même?
Non, je vous offre un petit dessert, parce que j'ai une vie de quartier et qu'on n'est pas loin.
Vous êtes venu en voisine, j'adore, voilà. Ça nous fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on boit avec ce tagine de poisson? On a ouvert deux bouteilles que vous avez apportées, chère Nordine, un Saint-Amour, un vin rouge. Hein, alors là, qui marche bien, qui est nature. Alors il faut l'aérer un petit peu parce qu'il a ce côté effectivement vivant. Et un blanc.
Avec l'œuf mayonnaise, on a amené Boutargue, on a amené un Beaujolais blanc, Georges Descombes.
Le pape du Beaujolais nature.
C'est un ami, c'est un amour, c'est un doudou.
Et en blanc, nous avons un
5%. Un 5% pour les gens qui sont radicaux, qui veulent vraiment des blancs avec les poissons. Moi, je bois du rouge avec les poissons. Un Saint-Amour du Beaujolais. Ou un fleuri, ou quelque chose de très fruité, très
joli. Des combes. Hein.
Moi, on m'a donné un
Descombes.
Très joli petit
chez Georges.
Thé à la menthe.
Un thé à la menthe pour vous, Catherine Jacob.
Un peu sucré. Hein.
Pas d'alcool.
Un peu, mais bon.
Quoi, le thé à la menthe, il est trop sucré? Elle est difficile.
Un tout petit
elle est difficile,
oui.
Catherine
Jacob.
Elle
n'est pas sucrée.
Elle est difficile. Elle arrête le sucre.
Nous avons un citronnade bio aussi, maison.
Ah, ben bah voilà. Oui. On va vous le faire moins sucré, on va vous désucrer le thé à la menthe. Alors. Mais c'est vrai que ça marche bien aussi le thé à la menthe, comme ça, avec le tagine.
On repas, l'été est frais, avec des glaçons, c'est génial, sans sucre.
Alors, on boit ce qu'on veut. Sucre. Vous ne buvez plus d'alcool, Catherine Jacob?
Vous êtes en train de m'expliquer que j'en ai bu.
Je m'intéressais.
Non. Chacun a ses plaisirs. Je me suis fait un petit peu coincer un jour, parce que... J'avais toujours un petit verre de champagne mondain à la main, alors que je sirotais deux verres. Je me suis fait avoir avec ça. Donc maintenant, c'est terminé.
Ça veut dire quoi? C'est un petit plaisir et on y revient, quoi.
Alcoolo,
L'alcoolisme mondain, comme on dit.
Oui, mais même pas. En plus, c'était même pas ça. Donc voilà, on ne m'y prendra plus.
Oui, c'est ça. Vous avez pris en photo, vous voulez dire, et on avait
non,
dit...
Non, je sais qui a balancé, donc...
Ah bon, carrément?
Je me vengerai.
Ah bon, très bien. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Bernard Minier et Catherine Jacob à la table du dimanche. Et puis Emmanuel Rubin va nous parler de la dame de chez Maxime. C'est un joli fait d'eau, mais on va surtout parler du restaurant Maxime, parce qu'il s'en est passé de belles dans ce beau décor.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Eh bien, nous voilà toujours à table aux côtés de Bernard Minier avec Catherine Jacob qui nous a rejoint sur scène dans un fil à la pâte au théâtre Héberto. Réunis autour d'un joli tagine de poisson de Nordine Labia, le chef du restaurant à mi-chemin. Alors, dans un thriller comme le vôtre, Bernard Minier, on aime se faire peur avec des éléments du réel. Catherine Jacob, c'est pareil, dans Phédo, on aime rire du malheur des autres aussi. Hein. On le disait tout à l'heure, il y a de la cruauté.
Bah oui, sinon il n'y a pas de rire. Enfin voilà. Mais vous savez, Phédo est mort à 58 ans, fou comme un lapin, syphilitique et tout, mais il avait eu le temps d'avoir une vie de patachon. Il allait chez Maxime, beaucoup. Il avait beaucoup de choses à se reprocher, mais il avait quand même vérifié que les bons sentiments, c'est bien sympa, mais l'argent, c'est fait le bonheur.
C'est une mécanique très huilée, hein, les pièces de Phédo. Rien n'est laissé au hasard. Bernard Minier, c'est comme dans vos thrillers. Vous n'auriez pas envie d'écrire, tiens, pour le théâtre ?
Ah bah c'est une tentation que j'ai eue à un moment donné. Alors après, il faut trouver du temps. Le problème, c'est toujours de dégager du temps, au fond. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup non seulement aller au théâtre, mais aussi lire des pièces de théâtre. L'écriture théâtrale, je trouve que c'est très intéressant.
Catherine Jacob, vous jouez le rôle de la baronne hein, dans le fil à la pâte.
La baronne du verger.
Là, s'il vous plaît. Vous auriez aimé être baronne ?
Moi, je crois que tout ça est un petit peu révolu, mais ça dépend de la voilure qu'on peut avoir. Si on peut ne pas être assujetti à un petit mari, c'est mieux. Si on a un peu de sous, c'est encore mieux.
C'est
vous voyez. Là, je précise que c'est quand même écrit par Phédo, mais la baronne, elle est un petit peu chaudasse.
Eh, c'est ça, oui, mais voilà. Mais il y a un petit peu de coquinerie souvent dans les faits d'eau quand même. Et la baronne, un petit peu chaudasse, elle est en train de...
Un peu quand même. Hein.
Mais elle marie sa fille.
Marie sa fille, mais va récupérer le gendre. Hein.
Alors Emmanuel Rubin, nous sommes à table avec vous, Catherine Jacob et Bernard Minier. Et Nordine Labia est avec nous. Restons-y. Vous nous emmenez chez Maxime, un illustre restaurant qui a inspiré Phédo avec la fameuse dame de chez Maxime. Une pièce à succès jouée longtemps sur les grands boulevards à Paris au début et puis dans de nombreux théâtres ensuite. Qu'est-ce qui se passe alors chez Maxime ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ?
D'abord parce qu'effectivement, vous allez voir que Phédo et Maxime, ce n'est pas simplement une pièce de théâtre. D'ailleurs, c'est Maxime's, le restaurant, mais la pièce, c'est la dame de chez Maxime,
oui.
Sans apostrophe S. Alors, tout commence en 1893, c'est-à-dire il y a 130 ans, ce qui fait de Maxime's aujourd'hui l'un des plus anciens restaurants encore en activité. Vous disiez d'ailleurs, Catherine, que la pièce Un fil à la pâte a 125 ans. Donc, vous voyez, on est vraiment contemporain des deux affaires. Tout commence aux 3 rues Royales, à Paris, dans le 8e arrondissement. Il y a deux amis. L'un s'appelle Maxime, l'autre Georges. Ils rachètent un petit glacier. Ils font de ce glacier un café contemporain. Et à l'époque, il y a déjà une certaine mode de l'anglicisme. Et ils décident d'appeler l'adresse Maxime's avec un S et George's avec un S apostrophe. Une autre bonne idée, c'est que le jour de l'inauguration du café, c'est l'exact jour du prix de Diane. Le prix de Diane, c'est une course hippique très mondaine. Et du coup, à la sortie du prix de Diane, tous les mondains de l'époque, toute la génération dorée, va venir découvrir ce café et ça va le lancer. Et loin et longtemps.
Alors ça, c'était le premier acte. Acte 2, tiens, pour nous raconter ce qui s'est passé chez Maxime's.
On entre dans le 20e siècle et là, l'adresse est reprise par un maître d'hôtel. Il a une idée assez géniale, vous allez voir, c'est qu'il se dit, tout marche bien, je vais garder le nom Maxime's, mais il y a un problème, c'est le décor. Et là, il dit, il faut faire un décor actuel. Il a bon goût parce que le décor actuel à l'époque, ça s'appelle l'art nouveau. Du coup, il va appeler les plus grands artistes de l'art nouveau pour décorer ce Maxime's, avec toutes les volutes, toutes les boiseries, toutes les velours des Moleskine, tous les miroirs. Et aujourd'hui encore, ça a autorisé Maxime à devenir un lieu classé aux monuments historiques. Et il y a d'ailleurs, au-dessus de Maxime, un petit musée où on peut découvrir certainement l'une des réunions les plus importantes de pièces art nouveau que Paris puisse compter.
C'est là qu'on retrouve aussi Phédo.
Eh bien oui, parce que Maxime's, à l'époque, il faut s'imaginer que c'est un restaurant hyper tendance. Ce sera un peu l'équivalent d'un Coste aujourd'hui. Ils sont à l'épicentre de Paris, entre Madeleine, Concorde et les Champs-Élysées. Il y a une vraie qualité de service. Je ne sais pas si l'Écosse, il y en a une, mais bon. Il y a de la musique. Il ne faut pas oublier qu'il y a un orchestre et que l'on y danse. Et puis, eh bien, tout Paris va débarquer. Alors, il y a Marcel Proust, il y a la Belle Otero, il y a Bugatti, il y a Sacha Guitry, et puis Georges Phédo. Et Georges Phédo, il est acté qu'il passe son temps entre le Café Anglais, qui a disparu, mais qui est une autre grande adresse de l'époque, et Maxime's. Et là, il observe ses contemporains. Il observe donc les mondains, les baronnes. Et ça l'inspire, et après, il écrit ses pièces.
Acte 4, les années 40. Alors là c'est une autre ambiance.
Ouais, ils sont toujours très mondains, mais comment dire, une mondanité vert de gris. Donc c'est effectivement l'épicentre aussi de l'occupation allemande. Ça lui vaudra d'ailleurs une interdiction administrative durant quelques années après la guerre. Pour un retour dans les années 50, c'est la famille Vaudable qui va reprendre l'affaire. Et alors là, les Vaudables, ils ont compris deux choses. Il fallait absolument ouvrir Maxim's à l'international et ça va devenir véritablement l'un des lieux les plus courus au monde. Toutes les stars de cinéma vont s'y presser. Maxim's va être l'objet d'un décor de cinéma. Je ne sais pas, je crois que c'est l'une des adresses les plus filmées de Paris. Et là, ils ont une autre idée, c'est de se dire quand même, notre adresse est très à la mode, mais on y mange très mal. Et Louis Vaudable va se dire, va peut-être falloir monter le niveau, ça va devenir aussi un grand restaurant.
Et là, le dénouement, l'acte 5, c'est les années 80.
Alors, Mitterrand arrive au pouvoir, on dit que les lendemains chantent, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour Maxim, c'est un peu la fin du signe. Ils ont perdu leur troisième étoile Michelin. D'ailleurs, ça a été le premier restaurant à rendre ses étoiles. Michelin lui retire la troisième étoile et Louis Vaudable dit, si vous me retirez la troisième, vous me les retirez toutes. Mais ça ne va plus très bien. Et ils vendent l'affaire à un certain Pierre Cardin. Et Pierre Cardin, c'est effectivement un créateur, c'est un homme de goût, mais c'est aussi un grand homme d'affaires. Et pas toujours pour le meilleur. Pierre Cardin, il va commencer à dupliquer les Maxim's à travers la planète. Il va en faire une manière de marque, où on va voir d'ailleurs des biscuits Maxim's dans les stations-service. Ça va abîmer, à mon sens, l'affaire. Mais ces dernières saisons, tout repart, un peu mieux. Nouveau chef depuis quelques mois. Et je pense que Maxim's va recoller avec sa superbe. Je l'espère, du moins. Et en tout cas, c'est l'adresse la plus photographiée de Paris et l'un des 10 restaurants les plus célèbres de la planète, toujours et encore.
Merci, Emmanuel Rubin. Catherine.
Oui, moi, il y a quelque chose qui m'émeut toujours, c'est que juste à gauche de l'entrée, il y a l'acte de réquisition de la guerre 14, la première fois où ça a été énoncé, affiché. Et l'affichette est toujours là.
Vous êtes déjà allé déjeuner chez Maxim's ?
Non, j'ai été invité à un petit machin un jour, mais bon.
Quelles sont les ambiances qui vous plaisent, tiens, quand on vous invite à déjeuner ou à dîner, Catherine Jacob ? Quelque chose de feutré, quelque chose de cosy, vivant, ambiance bistrot, canaille.
Si on peut
éviter les
ampoules de 100 watts, c'est bien aussi, parce que ça, c'est quand même la mort. Mais c'est la lumière, le charme des brasseries, voilà, on ne peut pas lutter.
Vous aimez une brasserie qui vit ? Mais les brasseries travaillent la lumière de plus en plus maintenant.
Ah oui, ce serait bien.
Je vous en trouverai.
C'est un petit peu ambiance commissariat de temps en temps.
Oui, l'ambiance est aussi importante que l'assiette.
Nous, on a un variateur de lumière.
Ah, et bien chez Nordine, il y a un variateur de lumière. Ça, c'est bien.
C'est décoré des années par Slavik.
Ambiance bistrot chez vous.
Décoré des rockstores.
La cuisine, c'est très important.
Ambiance bistrot parisien chez vous, Nordine Labia, dans un mi-chemin, votre restaurant du 14e arrondissement. Merci pour cette belle régalade et ce beau tagine de poisson, Nordine. Merci. Et on va finir sur une note sucrée, Bernard Minier et Catherine Jacob, avec un dessert apporté gentiment et aimablement par notre belle voisine Catherine Jacob, un dessert de chez Lignac. Une petite vie de... Vous en mangez pas, vous, alors vous nous regardez le manger.
Alors...
Alors, c'est Equinox, le dessert de Cyril Lignac, son dessert signature. Il y a de la vanille, il y a une belle mousse à l'intérieur.
Légère.
Elle brûle les planches avec ses amis au théâtre Héberto dans le fil à la pâte. C'était Catherine Jacob qu'on était bien content d'avoir à cette table. Je ne vous laisse pas partir comme ça, Catherine et Bernard Minier. Un coup de cœur pour nos auditeurs. Ça peut être un livre, un spectacle, un film que vous avez envie de recommander. Je vous laisse réfléchir, Catherine, et je commence par vous, Bernard Minier.
Ah ouais, c'est compliqué cette affaire. Puisqu'on parle de nourriture et de bec fin, je pense que moi, comme on le sait, je suis de Toulouse, enfin en tout cas pas loin, mais vraiment c'est pas souvent à Toulouse, donc il y a quand même un merveilleux restaurant que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît le personnage, mais le restaurant vaut le détour, c'est Michel Sarran à Toulouse.
Michel Sarran, bien sûr, qui était jury à Top Chef, entre autres avec son beau restaurant à Toulouse. Catherine Jacob, un coup de cœur pour nos auditeurs.
Un livre.
Oui, c'est bien un livre.
Le deuxième opus de Catherine Ney. Le temps passe, tu le sais bien. Moi, j'avais lu le premier, j'étais fascinée. Bon, de toute façon, je suis fascinée par Catherine Ney.
Et bien, comme nous, qu'on retrouve sur Europe 1, une des grandes voix d'Europe 1.
J'irais presque jusqu'à dire carrément génial, quoi.
Oui, elle est géniale. Absolument. Et elle est venue à la table des bons vivants et on va l'inviter aussi à la table du dimanche. Catherine Ney, qu'on retrouve sur Europe 1, bien entendu. Merci, Catherine Jacob.
Merci à vous.
Et vous, on vous retrouve donc brûler les planches au théâtre Héberto avec toute votre belle bande dans le fil à la pâte. Ça fait du bien, un bon fait d'eau parce qu'on se marre. Voilà, on le sait que ça va être efficace comme un bon thriller de Bernard Minier. Lucia, c'est le dernier. Merci, Bernard.
Merci.
Et on va voir, vous avez Instagram ?
Oui, bien sûr.
Alors, on va voir votre Instagram parce que vous avez pris des photos depuis 11 heures.
Je vais m'activer sur
mon téléphone.
C'est
pour ça. Dis donc, il est actif sur les réseaux, Bernard Minier. Merci, Nordine Labia.
Merci, Laurent.
Et on vous retrouve dans votre restaurant à mi-chemin. Et merci pour ce beau tagine de poisson et ces œufs qui n'étaient pas durs, mais mollets avec une belle poutargue par-dessus. Merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. David Ordonneau à la rédaction en chef, Claire Dutron à la programmation et à la rédaction avec Julien Amat, Loïc Vimard à la réalisation, Julien Or à la technique. Bon week-end, salut Emmanuel Rubin.
Salut, salut.
À la prochaine.
À la prochaine, chez Maxime's.